Un petit bout d'os, une phalange de 40 000 ans, banal a priori. C'est dans ces montagnes qu'une équipe de chercheurs internationaux a fait l'incroyable découverte. Il s'agirait là des restes d'une autre espèce d'homme totalement inconnue. Avec cette nouvelle découverte, c'est une quatrième branche que l'on rajoute à notre arbre généalogique. Un quatrième homme, vieux sans doute d'un million d'années, deux fois notre âge. Et de cet homme, il nous reste tout à apprendre.
Et ça, c'était en 2010. Et aujourd'hui, c'est un petit bout de crâne de l'homme de Denisova qui vient d'être découvert. Et c'est à la une de la science, Axel.
Et oui, Mathieu, c'est un petit morceau de voûte crânienne déniché dans la fameuse grotte sibérienne de Denisova. C'est assez rare pour être souligné, car depuis sa découverte en 2010, les seules traces que nous ayons de ce groupe d'humains se résumaient à quelques dents, une phalange et un petit peu d'ADN. Pour en parler et pour comprendre cette fameuse quête du crâne, nous recevons par téléphone le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Axel.
Vous êtes en direct avec nous depuis l'Institut Max Planck à Leipzig. Alors ce petit morceau de crâne, il est vraiment petit, il fait quelques centimètres. Pourquoi est-ce qu'il était néanmoins important et attendu ?
C'est-à-dire que chaque fragment découvert de Denisovien est important. On a très très peu de fossiles qui sont pour l'instant attribués à ce groupe donc, qui a été découvert en 2010.
Alors, si on veut être précis, le morceau de crâne en question et sa découverte ont été annoncés par l'équipe de Bence Viola, mais ils ne seront dévoilés qu'à la fin du mois. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser ce fragment ou même de discuter avec les auteurs ?
Ah, j'ai croisé Bence Viola plutôt que le fragment, mais donc j'ai pu discuter un peu avec lui de cette découverte. Alors, c'est vrai qu'aux yeux d'un profane, ça n'est pas un fossile très très spectaculaire. Hein. C'est un petit fragment de voûte crânienne, mais comme on l'a déjà dit, tous les restes qui sortent de cette grotte de Denisova pour l'instant sont des dents et puis un petit fragment de phalange d'enfant qui a été aussi identifié.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme science avec un si petit morceau, à part bien sûr faire de l'analyse ADN ?
Bah, en fait, c'est surtout ça. Hein. Ah. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte que du point de vue de l'analyse morphologique des fossiles, le site de Denisova est quand même assez décevant. Hein. Mm-hmm. Alors d'un côté, on a des informations extraordinaires sur le génome de ces hommes. Pourquoi ? Parce que c'est une grotte froide. Une température basse qui conserve très bien l'ADN sur de longues périodes. Donc on a le séquençage complet de leur ADN. Mais voilà, elle a les défauts de ses qualités. Elle est froide, donc il y a ce qu'on appelle de la cryoturbation, hein, des bouleversements de couches liés au gel, au dégel, des mélanges. Et puis surtout, les carnivores y ont été assez actifs. Et donc, en gros, tout ce qui sort de cette grotte, en ce qui concerne les ossements en tout cas, fait rarement plus que quelques centimètres de long.
Alors d'un point de vue physique, oui, on n'a pas grand-chose, mais vous l'avez dit, on a l'ADN. Est-ce qu'à partir de l'ADN, on peut dire quelles sont les périodes de l'histoire ou même les zones où l'on suspecte que Denisova ait prospéré ?
Alors il y a deux choses très importantes que l'ADN nous apprend. D'abord, la position de ces hommes. Donc c'est un groupe frère, comme on dit dans le jargon, des Néandertaliens. Et ils se sont séparés des Néandertaliens il y a environ 450 000 ans, quelque chose comme ça. Donc après la séparation entre nos ancêtres à nous et puis ce groupe eurasiatique néandertalien et denisovien. Puis l'autre information, c'est que, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les spécialistes, c'est qu'on trouve des traces de cet ADN de Denisovien dans des populations asiatiques et océaniennes actuelles. Et là, l'image est assez troublante parce que chez les habitants du Tibet, en particulier, il y a un gène qui permet l'adaptation à la haute altitude qui semble être hérité de ces Denisoviens. Mmh. Et puis surtout, c'est en fait en Australie, en Nouvelle-Guinée, qu'on trouve une contribution assez importante, de l'ordre de 4% d'ADN Denisovien dans des populations d'aborigènes.
Valérie Masson-Delmotte, un petit mot sur le climat de l'époque, justement, hein, vous qui êtes paléoclimatologue. Alors, qu'est-ce qu'on sait du contexte environnemental de Denisova ?
Je pense que c'est une question à poser à Jean-Jacques, parce que justement, c'est un des points qui est intéressant. Et quand on parle de variabilité passée du climat, il y a ce rôle important des grandes variations glaciaires-interglaciaires qui a planté le décor, hein, pour cette époque-là.
Alors, Jean-Jacques Hublin, qu'est-ce qu'on sait ?
Au long de fait 450 000 ans, disons 400 000, parce qu'ils ont disparu quand même au moment de l'arrivée des hommes modernes, au long de ces 400 000 ans, il y a eu des fluctuations très très importantes du climat, des grands cycles, hein, d'à peu près 100 000 ans, avec des épisodes froids en général, et puis de temps en temps un pic glaciaire assez intense, et puis aussi des épisodes plus tempérés, et des pics tempérés, voire un peu chauds de temps en temps. Soit en passant, leur frère néandertalien, qui était plutôt des populations de l'ouest de l'Eurasie, ont fait quand même une excursion jusqu'à l'Altaï, là-bas, jusqu'à Denisova, lors du dernier grand interglaciaire, il y a environ 120 000 ans, 110 000 ans. Voilà, ils se sont rencontrés. Je reviens à cette présence d'ADN néandertalien dans les populations actuelles. Évidemment, la conclusion de cette observation, c'est qu'il a dû exister des Denisoviens loin de l'Altaï, dans le sud de l'Asie, sur le chemin des populations d'Homo sapiens qui sont arrivées jusqu'en Australie. Parce que c'est quelque part dans le sud de l'Asie, ou dans le sud-est asiatique, ou en Indonésie, que s'est produit cette absorption de populations denisoviennes chez les ancêtres des Australiens.
Allez, dernière question, oui. très vite.
Justement, Jean-Jacques Hublin, on l'attend maintenant, ce crâne ou ce squelette de Denisova. Est-ce qu'on va le trouver en Asie, ou alors quand même en Sibérie? Vous pensez qu'il faut le chercher où?
Alors moi... Enfin, je vais peut-être décevoir un petit peu mes collègues qui sont pas très loin de mon bureau là. Je suis assez sceptique sur la perspective de trouver un crâne ou quelque chose de très important dans la grotte de Denisova pour les raisons que j'ai données. Maintenant, je suis persuadé qu'on a déjà des Denisoviens, c'est-à-dire qu'une grande partie des fossiles qui ont été trouvés notamment en Chine et qui datent de 100 000 ans, 200 000 ans, cette fenêtre de temps hein, entre la séparation des Denisoviens et puis l'arrivée des hommes modernes en Asie, ces fossiles-là sont des Denisoviens. Et d'ailleurs, certains d'entre eux présentent des caractères qui sont pas des caractères de néandertaliens, mais qui rappellent un peu les néandertaliens. Et dans le fond, c'est ce qu'on s'attend à trouver dans un groupe proche des néandertaliens. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité d'identifier certains de ces fossiles comme denisoviens grâce à des arguments moléculaires, de l'ADN, autre chose, des protéines anciennes, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va arriver.
Et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, si ça se produit. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hublin, de votre coup de fil. Et puis, on se retrouve demain à la Une de la Science, Axel.
Demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les sciences impactent plus vers la transparence en matière de glyphosate. Les études jusqu'à maintenant confidentielles sur la toxicité du pesticide menées par les industriels devront être rendues publiques. C'est le tribunal de l'Union européenne qui vient de prononcer ce jugement important, estimant que le public devait avoir accès non seulement aux informations sur les émissions, mais aussi sur les conséquences à plus ou moins long terme. Un site sacrificiel qui bat tous les records de cruauté, 140 corps d'enfants âgés de 5 à 15 ans et ceux de plus de 200 lamas ont été retrouvés sur un site au Pérou, selon une étude américaine de l'université de Tulane. Tous ces enfants et ces animaux ont succombé lors d'une même cérémonie religieuse. Leur sternum était tranché en deux, leur cœur arraché. Cet acte d'une barbarie unique a été pratiqué par la civilisation Chumi en 1450, juste avant qu'ils n'entrent en guerre contre les Incas. Le CERN ne plaisante pas avec les chercheurs misogynes. Le consortium sur les recherches nucléaires basé à Genève a décidé de clore tous les contrats le liant au physicien Alessandro Strumia en septembre dernier. L'intéressé avait lourdement dérapé lors d'une table ronde, affirmant en substance que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde de la physique, tout en déplorant une féminisation par quota. Le CERN est dirigé depuis 2016 par l'italienne Fabiola Gianotti. Et puis pour terminer, notez que c'est la semaine du cerveau qui commence aujourd'hui. Partout en France, des rencontres, des conférences et des débats sont organisés dans de nombreuses villes, mais également en ligne. Et pour rencontrer les scientifiques qui cherchent à savoir ce que nous avons dans le crâne, rendez-vous donc sur la semaine du cerveau.fr et nous allons largement en reparler tout au long de la semaine.